Bonjour mes frères et sœurs, bonsoir. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre, nous allons lire une prière pour commencer. Dans le psaume 71, nous allons lire un verset, le 21. Le verset 21, je pense que c'est une prière qu'on a eu faite. Psaume 71, verset 21. Il y a des choses que l'on a expérimentées, mais on doit les réexpérimenter. Vous êtes d'accord? Et c'est ce que dit cette prière dans le psaume 71, verset 21. « Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. » Vous voyez, comme quoi, ce n'est pas gagné toujours une expérience. « Console-moi de nouveau. » Après, nous allons lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, où Paul parle justement de cette consolation. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, du verset 1 au verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Je relis ce verset, s'il vous plaît. Donc, nous voyons que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Donc vous avez vu toute cette introduction sur l'importance d'être consolé pour pouvoir à notre tour consoler les autres. C'est pas évident de consoler, oui ou non? D'ailleurs vous avez vu David qui dit « mais console-moi de nouveau ». Parce que des épreuves arrivent ou reviennent ou d'autres nouvelles épreuves et on a besoin, même si on a expérimenté certaines faveurs, d'être au bénéfice de cette faveur de Dieu à nouveau. Vous savez que Job a eu une épreuve terrible, c'est des épreuves que tout le monde redoute ça. Des épreuves, quand on lit le livre de Job, on est pétrifié la première fois par l'épreuve qui peut tomber sur un homme. Et ses amis vont le rejoindre, c'est des amis en plus, qui, je pense, qui tenaient debout. Et à un moment donné, il est tellement accablé par les paroles que ses amis utilisent, parce que c'est la preuve que ce n'est pas évident de consoler. Et à un moment donné, il va leur dire, mais vous êtes des consolateurs de néant. Alors en même temps, ce livre, c'est vrai que je vous ai dit qu'il y avait dans ce livre, je crois, 292 questions. C'est impressionnant. Moi, c'est un livre, chaque fois que je le lis, j'apprends des choses et les questions me font vraiment réfléchir. Ce sont ses amis. Ils ne comprennent rien à l'épreuve qu'il est en train de traverser. Et nous qui sommes là ce soir dans la maison du Seigneur, qui sommes ses enfants, je pense que s'il y a des réunions qui servent à amener des pécheurs des ténèbres à la lumière, il y a des réunions que Dieu utilise pour que nous fassions des progrès. Oui ou non? Pour que nous apprenions certaines choses. Nous devons apprendre certaines choses. D'autant plus que le monde est de plus en plus compliqué. Les temps sont de plus en plus difficiles. Moi, je pense que les gens souffrent de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de souffrances autour de nous. Vous le voyez, rien que si vous écoutez un peu les informations, vous voyez combien les gens souffrent. C'est une évidence. Et nous ne pouvons pas être insensibles à cette souffrance. Jésus dit, mais je veux que vous appreniez ce que signifie la miséricorde. Donc ça s'apprend. Et la consolation, ça s'apprend aussi. Apprendre la consolation, recevoir la consolation pour pouvoir consoler les gens qui souffrent autant au milieu de nous, dans notre famille, mais des gens qui souffrent dans le voisinage, des gens que Dieu met sur notre chemin, des gens que nous côtoierons peut-être pas souvent, mais il n'empêche qu'un chrétien, un vrai chrétien, doit apprendre. On doit apprendre. On doit apprendre n'importe qui. Quand vous apprenez un métier, vous apprenez, je sais pas, vous apprenez la mécanique, peut-être vous allez commencer à réparer les pneus, je ne sais rien, mais un jour ça sera les culasses, je ne sais rien. Il faut apprendre, vous êtes d'accord avec moi? Il faut apprendre. La souffrance, c'est un sujet qui revient dans la parole de Dieu, c'est impressionnant cette affaire de souffrance dans la Bible. C'est même l'apôtre Pierre qui dit « Armez-vous, armez-vous, vous rendez compte, de la pensée de souffrir. » Alors, commençons par une question. Que se serait-il passé si nous avions jamais souffert? C'est des questions qui font réfléchir par rapport à ce sujet. Qu'avez-vous ressenti dans des épreuves que vous n'attendiez pas? Parce qu'il y a des épreuves, on s'y attend, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des épreuves, on ne sait pas qu'elles vont nous arriver. Oui ou non, il y a des épreuves, ça peut être dans tous les domaines. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans des épreuves, surtout la première fois où vous avez été éprouvé? Il y a des épreuves quand même qui font que c'est pas possible, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Donc on ressent de la frustration, on ressent de la peine, on ressent du chagrin, on ressent de la colère. Chacun a notre façon de réagir. Et c'est vrai que dans la souffrance, on fait des choix différents. Il y a des gens qui abandonnent tout dans la souffrance. Et on le sait, il y a des gens, ils vont tout balader. Il y a des couples, dès qu'il y a un problème, paf, ils divorcent. Oui ou non? Il y a des couples, quel que soit le problème, ils ont décidé de chercher en Dieu la solution. Gloire à Dieu. Donc Dieu, par sa parole, agit, parle. Oui, ce soir, nous allons essayer de comprendre qu'il nous faut apprendre la consolation. Moi, je suis étonné de voir tout ce que Paul a appris. Tout ce que Paul a reçu par révélation. Il le dit souvent, j'ai reçu par révélation, c'est un homme, on voit bien qu'il a une communion avec Dieu. Mais souvent, il dit, tiens, j'ai appris à être content, j'ai appris à ceci, j'ai appris cela, nous avons appris à nous aimer. Il y a des choses qui s'apprennent. Et la consolation, mes frères et sœurs, je crois que nous sommes dans des temps tellement compliqués que nous devons apprendre à nous consoler les uns les autres. C'est quoi un chrétien? C'est parce que c'est quoi un chrétien en fait? C'est vrai si on devait poser la question. Eh bien, un chrétien, c'est quelqu'un qui apprend ce que Dieu veut qu'il apprenne. Et je suis persuadé que ça fait partie des choses que nous devrions vraiment développer, apprendre à consoler les autres. Parce que la souffrance, elle est là. Et il y en a des gens qui souffrent, même dans les églises, ça arrive. Bien sûr que Dieu, si on a une véritable communion avec Dieu, par sa parole, par une promesse, par un frère, par une circonstance, par une intervention divine, Dieu montre sa fidélité. C'est important que nous vérifions la fidélité du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des moments donnés, on a besoin, Seigneur, d'expérimenter ta consolation, par exemple. Dieu, on sait que Dieu change le mal en bien. Vous l'avez vérifié ça, que Dieu change le mal en bien? Ça, c'est un grand progrès, lorsque vous savez que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Donc, nous avons appris certaines choses, et vous arrivez à le discerner en fonction des chrétiens avec qui vous discutez. Alors, je ne veux pas être méprisant, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des chrétiens spirituels, oui ou non? Et il y a des chrétiens charnels. Est-ce que c'est vrai? Soyez honnête. Hein? Donc, quand vous discutez avec un chrétien spirituel, c'est vrai. Je ne dis pas, que les chrétiens spirituels sont toujours spirituels et que les chrétiens charnels sont toujours charnels. Mais quand même, quand vous discutez avec un chrétien spirituel, il va vous dire que Dieu utilise toutes les situations pour accomplir quelque chose. Lorsque vous discutez avec un chrétien charnel, il va vous dire ben, l'inverse. Il dit, oui, je ne comprends pas pourquoi j'ai traversé cette épreuve, etc. Il peut donc vous décourager. Est-ce qu'un chrétien peut décourager un chrétien? Mais oui, hélas. Mais nous rencontrerons des gens découragés. Vous voyez, c'est ça l'Église. Pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, etc. C'est aussi difficile de se réjouir avec des gens qui se réjouissent. Vous croyez pas? C'est quoi le plus facile? Pleurer avec des gens qui pleurent? Ou se réjouir avec des gens qui se réjouissent quand on n'a pas envie de se réjouir? Vous voyez? Donc nous devons comprendre, au travers d'un texte comme celui que nous venons de lire, comme la prière de David dans le psaume 71, nous devons apprendre la consolation. Ça vous arrive de dire au Seigneur, montre-moi ta volonté, Seigneur. Montre-moi ta volonté, je veux. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Dieu veut faire de nous de véritables consolateurs. Vous vous attendiez à ce message ce soir? Est-ce que vous avez envie de devenir un consolateur? Croyez-moi, je crois que dans une église, dans une famille, dans un couple, je crois que c'est une source de bénédiction, ça, lorsqu'on apprend à se consoler les uns les autres. C'est pour ça que Dieu permet des épreuves. Écoutez, le texte que vous avez lu, que nous avons lu ensemble, est la preuve que Dieu permet certaines afflictions, il les permet, pour que nous puissions apprendre de lui comment recevoir la consolation, mais d'autres vertus aussi, d'autres vertus dans d'autres situations, pour que nous puissions aider les autres. Car l'Église, c'est un corps et nous devons nous aider les uns les autres. Dieu veut que nous nous appliquions à consoler les autres. C'est très important. Est-ce que vous êtes prêt à consoler quelqu'un? Ou à le décourager. Sérieusement. Allez, on va tous baisser la tête. Est-ce qu'il n'y a pas des gens parfois que vous avez fui parce que chaque fois que vous discutiez avec eux, ils vous décourageaient? Ça vous est jamais arrivé, vous? Ça vous est jamais arrivé? Il y a des gens, vous discutez, vous savez qu'ils vont vous déblatérer un chapelet de murmures. Hein. Peut-être que vous n'en connaissez pas. Vous avez du bol, je vous le dis. Vous avez du bol. En tous les cas, nous sommes là ce soir, devant Dieu, nous avons prié, nous avons chanté, et nous comprenons qu'il y a des choses que l'on doit apprendre. Il faut les apprendre. Vous ne savez pas quelle est la prochaine situation que Dieu permettra dans votre vie pour que vous appreniez telle ou telle chose. Ce soir, je parle de la consolation, mais ça peut être autre chose. Et si on n'est pas disposé à apprendre, eh bien, on va souffrir inutilement, on perd du temps. On perd du temps à ça. Et c'est dommage, parce que de toute façon, Dieu veut que nous apprenions ces choses. Et on fait comme à l'école, on redouble. Et à la place d'être des maîtres, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, à la place d'être des maîtres, c'est-à-dire des gens capables d'enseigner les autres, eh bien, nous sommes des enfants qui sont tout le temps en train de se plaindre et de gémir et de ne pas comprendre, parce que les enfants, ils ne comprennent pas souvent. En préparant cette prédication ce matin, je me disais, tiens, et toi, qu'est-ce que tu as appris? Tiens, dans le cadre du mariage, par exemple. Le mariage, c'est une... Le mariage. Je trouve que c'est un sujet qui nous permet, franchement, de réfléchir. Quand on se marie, au début, on vit certaines choses dans le cadre du mariage. Oui ou non? Oui ou non? On vit des choses, dans le cas du mariage, les premiers mois, on ne vit pas les mêmes choses les premiers mois que les premières décennies, etc., etc. Et moi, je me souviens, quand on était jeune, avec ma femme, quand on voyait un couple, quand on voyait un mari qui se plaignait de sa femme, on dit « Ouais, laisse tomber, t'as qu'à prier, ça s'arrangera. » Oui, on a la réponse toute faite, des fois, quand on est jeune marié. Enfin, c'est ce que moi, j'ai vécu, hein. Puis les années passent, et puis on se rend compte qu'il y a quand même des situations difficiles dans le couple. Oui ou non? Et un jour, ma femme, par exemple, m'a expliqué que j'étais plus marié avec mon ministère qu'avec elle. Et je n'avais pas compris, c'est vrai. Elle m'a dit, mais tu n'es pas marié avec moi. Et j'ai vu combien elle souffrait. Et bien sûr, voyez, ça m'a permis de réfléchir, tout ça. Dieu m'a parlé par sa parole. Celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et puis il y a des amis qui nous disent, oui, fais attention quand même. T'es marié, tu prends soin de ta femme, les enfants souffrent, etc. Et puis on fait une expérience, et Dieu nous donne sa paix. Et puis après, moi, quand dans mon bureau, quelqu'un vient, il me dit, vous savez, monsieur Gau, mon mari, prends pas soin de moi. Et vous voyez, c'est bizarre comme je comprends la sœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je te donne cet exemple parce que ça s'est produit plusieurs fois. Mais il est important dans les épreuves que nous traversons d'apprendre. Et l'apôtre Paul commence cette épître, il commence cette épître avec ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est important. Nous devons réaliser que notre Dieu s'appelle notre Sauveur. Il nous sauve de toutes ces situations. Il n'est pas que le Sauveur de notre âme. Il nous sauve dans toutes ces situations compliquées. C'est important. Vous savez, moi, quand on est serviteur de Dieu, on voit toutes sortes de situations dans une église. Combien de gens souffrent parce qu'une femme dira « mon mari ne s'occupe pas de moi » ou un mari qui souffre parce que je ne sais pas comment aider ma femme, etc. On a besoin d'être consolé. On a besoin de consolation. Tous, on a besoin. Un pasteur, par exemple, qui a eu envie d'arrêter le ministère. Est-ce que vous pensez que je peux le comprendre? Ben ouais. Parce qu'il y a longtemps, ça m'est arrivé. Vraiment. Et quand on a souffert certaines choses, et que le Seigneur nous a consolés, on peut aider à notre tour des personnes. C'est exactement ce que dit ce texte. Dieu est le Dieu de toute consolation. Alléluia. C'est ce qu'on a lu. Il faut le croire, mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je sais que nous, des fois, on est intéressé par notre propre vie. Mais Dieu, lui, il est intéressé pour que notre vie serve aux autres. Il faut que notre vie soit utile. Ça, c'est... On dit, Seigneur, montre-moi, je veux faire ta volonté. Seigneur, je t'en supplie, montre-moi. Eh bien, moi, je vous le dis. Nous devons être utiles aux autres. Je dois savoir être utile à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le Seigneur y bénit son Église. On a besoin de veiller les uns si les autres. Si nous pensons qu'à nous, je pense que nous passerons à côté de certaines choses. Paul, il a été affligé. Il le dit, Paul, qu'il a été affligé. Il a été affligé. Et il a reçu de Dieu une consolation qui lui a permis de consoler les autres. On a besoin. Hier soir, je méditais, je pensais à Jean. Vous voyez, je pensais à Jean. Quand il a écrit l'Apocalypse, il l'a écrit dans les années 90, il devait être certainement le dernier apôtre vivant. Et Dieu permet qu'il se retrouve prisonnier, exilé, sur une île. Je pense qu'il a dû peut-être dire, mais franchement, je serais plus utile si j'étais à Jérusalem. Soyons honnêtes. Je serais plus utile si j'étais à Éphèse, si j'étais à Antioche. Là, je suis un prisonnier. Mais Dieu, qui sait tout, va lui parler pour qu'il puisse recevoir quelque chose et consoler les chrétiens qui, à l'époque, étaient vraiment persécutés. Et ils vont recevoir une espérance sur le règne de Dieu, sur la chute de Satan. Parce que quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez aussi quand même que Satan va être défait et que Jésus va régner. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Dans toute situation, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et Jean, vous rendez compte, à la fin de sa vie, il va recevoir la révélation de l'Apocalypse qui a non seulement servi aux chrétiens persécutés de son époque, mais depuis 20 siècles, ça console tous les chrétiens du monde. Et l'affliction, il faut l'accepter. C'est cela qui fragilise souvent les églises. C'est que les chrétiens n'acceptent pas l'épreuve. Moi, je pense souvent à David, quand il est dans le désert, il est dans le désert de Juda. Il y a des gens, dès qu'ils sont dans le désert, ils envoient tout balader. Je n'accepte pas. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Mon âme a soif du Dieu vivant. Ô Dieu, je te cherche. Est-ce qu'il avait raison? Ben, un peu, oui. Et il y a des gens qui ont compris que ce que Dieu fait est toujours intelligent. Et nous devons apprendre, mes frères et sœurs. Vous voulez que ça se passe bien quand vous passerez devant Dieu, franchement. Eh bien, nous devrions dire, Seigneur, apprends-moi à recevoir cette consolation. Il le dit, Paul, il transmet aux autres la consolation dont Dieu s'est servi pour le consoler. C'est important. Regarde, on va lire ce texte à Hébreux, parce que quand même, c'est important. Le but des études bibliques, parce qu'une étude biblique, c'est quoi? C'est parce qu'on ne sait pas quoi faire le mardi soir, donc on vient passer une heure ensemble? Non. Regardez dans Hébreux, chapitre 5. Je l'ai cité, j'ai fait allusion tout à l'heure, je ne savais pas si on prendrait le temps de le lire, mais j'y tiens vraiment. Parce qu'on doit apprendre, mes frères et sœurs. Un chrétien, il a besoin de s'épanouir, il a besoin de grandir, etc. Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oui, c'est un reproche, ça, que Dieu pourrait faire. Vous ne croyez pas aujourd'hui dans beaucoup d'églises? Des gens qui sont... parce qu'ils ne sont pas intéressés. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant dans le mauvais sens, là. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc vous voyez, un travail de discernement, comprendre quand j'étudie la parole de Dieu, mais comment comprendre, comment je dois apprendre à consoler les gens. Parce que vous savez, ce n'est pas évident de consoler les gens. Vous croyez que c'est facile de consoler les gens? Je me souviens de cette sœur qui était hospitalisée, elle avait été malade. Malade, vraiment malade, j'étais Albi. Et elle avait été visitée par des sœurs. Elle était malade, mais vraiment dans la souffrance. Vous savez, quand tout va mal. Et déjà, il y a des gens, ils sont forts pour encourager. Alors vous allez la voir, et, mais il te faut prier. Il te faut prier, t'as pas prié aujourd'hui? T'as pas lu que dans la Bible, tu peux pas prier une heure? Jésus l'a dit, n'avez-vous pas pu prier une heure? Mais je peux pas prier. Ah ben ça va pas alors, il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Il faut prier, il faut toujours prier, en tout temps. Vous voyez, il y a des gens, ils connaissent bien la parole. Et elle est tombée comme ça sur deux ou trois sœurs. Et il y a une autre sœur qui venait de traverser une épreuve, où pendant un moment, elle ne pouvait plus prier. Et en lisant la parole, elle était tombée sur verset de Romains 8, où il est... Putain, on va le lire. Regardez ce verset s'il est beau. Dans Romains, au chapitre 8, il y a un verset qui nous rappelle que à des moments, on est faible. À des moments, on peut passer par des moments vraiment de faiblesse. Romains chapitre 8, parce que cette sœur ne priait plus. Depuis une quinzaine de jours, elle était tellement fatiguée qu'elle ne priait pas. Et la sœur lui a dit, mais vous êtes sûr que vous ne priez pas? Et elle lui a lu ce verset. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et cette sœur lui a dit, mais vous ne pensez pas à Jésus, vous ne soupirez pas dans votre cœur. Elle me dit, mais que si, mais je pense à Jésus, mais je n'ai pas la force de prier, de parler, mais par des soupirs inexprimables. Elle parlait au Seigneur. Et cette femme, elle a été consolée. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, il nous sera impossible de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Quand quelqu'un ne va pas bien, il n'a pas besoin de sermon, et il faut prier, et il faut se réjouis-toi dans le Seigneur. Bon, mais je sais bien, mais en fait, il est aussi écrit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous devrions chercher la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Surtout que je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu, nous savons tous très bien que le monde va souffrir de plus en plus, parce qu'il a rejeté le Seigneur. Donc, le vrai but, c'est que nous croissions dans le Seigneur. Ce n'est pas écrit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, afin que nous croissions à tous égards. Donc, la volonté de Dieu, c'est que vous fassiez des progrès. Il y a des chrétiens, c'est des enfants, ils pensent qu'à eux. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais en plus, je sais que Dieu bénit. Mais quand même, c'est dommage de rester un enfant spirituel. Et si demain matin, nous commencions la journée en disant, Seigneur, tu vois, aujourd'hui, si tu veux que je console quelqu'un, parle-moi par ta parole. Parle-moi par ta parole. Qu'est-ce que ça veut dire, au fait, consoler les autres? Là, je viens de vous donner un exemple. Mais c'est savoir leur donner de la force et de l'espoir. Voilà. Consoler, c'est cela. C'est ça, consoler. Pas notre force, pas la nôtre, que nous puiserions dans notre merveilleuse personnalité. Non, la force du Seigneur. C'est sa force à lui qui console les gens. C'est pour ça que Dieu nous enseigne l'adversité. C'est pour ça que Dieu permet l'adversité dans notre vie. Il a permis l'adversité. Vous aimeriez qu'elle n'existe pas, l'adversité? Allez, dites-moi la vérité. Hein, c'est une drôle de question, ça. Mais de toute façon, elle ne sert à rien, cette question, parce que vous l'aurez. On nous l'aura. Mais nous devons apprendre. Nous devons apprendre à consoler les autres. Parce qu'il faut que ça se passe bien quand vous passerez devant Jésus-Christ. Prenez courage. Mais où je vais le prendre, le courage? Dans ma, comme je viens de le dire, dans ma merveilleuse personnalité, dans mon caractère, vous êtes optimiste. Mais c'est pas. Mais vous n'avez pas besoin d'être ni. Bon, c'est bien, il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Mais ce n'est pas dans votre optimisme que vous aiderez quelqu'un. Vous aiderez quelqu'un parce que vous puiserez la force dans la présence du Seigneur. Et des fois, on dit, oui, toi, c'est bien, tu es costaud, toi. Non. Tous les chrétiens peuvent recevoir et prendre du courage. Prenez courage. Bien sûr, dans sa présence, c'est important. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand David dit, tu es ma force, c'est ça, la grâce. Pourquoi il pouvait se permettre de dire, console-moi de nouveau? Ben, parce qu'il en avait besoin. Il en avait besoin. Savoir donner de l'espoir, c'est important. Jésus va mourir. Il va être arrêté, renié, trahi, vendu, crucifié. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une maison, une demeure dans le ciel, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je viendrai vous chercher. Enfin, vous connaissez tous ces textes. Vous vous rendez compte? Mes frères et sœurs, nous avons des moments difficiles et nous devons chercher de l'espoir. Nous devons avoir de l'espoir. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas fuir que de chercher de l'espoir dans les choses éternelles. Est-ce que c'est important? Eh oui. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui planent, mais enfin quand même, on a le droit aussi de chercher dans les choses éternelles de l'espoir et de la force, donner de l'espoir. Vous savez, mes frères et sœurs, je ne sais pas si nous réalisons combien toutes les souffrances devraient nous amener à regarder les choses invisibles. On va lire un autre texte dans Corinthiens, s'il vous plaît. Dans 2 Corinthiens, il y a un autre texte dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, et au verset 16. Il en parle. Vous savez, Paul, il a traversé des moments très, très, très difficiles. On ne le dirait pas, mais enfin, quand on lit ses écrits, on ne le dirait pas. Et pourtant, 2 Corinthiens, chapitre 4, voyez, verset 16. On va lire le verset 15, puisqu'il parle justement de ces difficultés qu'il rencontre. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce de Dieu, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions... » Alors, si vous regardez ce qu'il a traversé, nous, je ne suis pas du tout sûr que nous appellerions ça des légères afflictions. Nous appellerions ça plutôt de gros problèmes. Et lui, il en parle comme de légères afflictions. Les afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est ce que je vous dis, c'est que dans l'adversité, dans le deuil, il y a une façon de voir les choses. Vous savez, je me souviens quand j'ai perdu ma maman, il y a une sœur qui avait perdu, pareil, quelqu'un de la famille, au même temps. Et puis on s'est rencontrés, je ne sais plus où, on s'est rencontrés en ville. Et elle me dit, monsieur Gault, moi, vous savez, je ne supporte plus de passer devant la clinique où cette personne est décédée. Et vous ? Je dis, mais moi, écoutez, chaque fois que je passe devant la clinique où ma maman est décédée, je bénis le Seigneur pour le confort que les gens ils ont lorsqu'ils sont malades. Parce que quand même, il y a vraiment du confort. Ah bon ? Elle me dit, oui, oui, c'est comme ça. Elle me dit, quand j'entends une ambulance, je ne supporte plus les ambulances. Je ne supporte plus. Je dis, mais moi, quand j'entends les ambulances, je dis merci Seigneur. Parce que quand même, c'est une grâce aussi d'avoir des véhicules pour transporter les gens. Vous voyez ce que je... Oui ou non ? Enfin, Vraiment, mes frères et sœurs. Et je crois qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais mes frères et sœurs, je crois qu'il faut être réaliste. Je crois que nous avons un Dieu qui nous dit tout ce qu'il a à nous dire, tout ce que nous avons à apprendre. Et dans ces choses, ces afflictions passagères, parce qu'on n'est que de passage, nous devons penser aux choses éternelles. Nous devons regarder les choses invisibles. Paul regardait les choses invisibles. C'est pour ça qu'il faut bien connaître la parole de Dieu. Il recevait cette consolation. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous vivez vos cultes personnels. Je ne sais pas si vous lisez pour lire, si vous priez pour prier, si vous allez à l'église pour aller à l'église, etc. Mais moi, je crois que toute la parole est inspirée pour nous faire des progrès, pour que nous croissions à tous égards. Je vous parlais de Jean quand il était sur cette île. C'est terrible, ça. Mais vous ne croyez pas que quand vous... Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez quand vous lisez l'Apocalypse, en fait ? À quoi vous pensez quand vous lisez l'Apocalypse ? Vous dites, j'y comprends rien, je ne le lis pas. Alors, il y a des gens, ils ont d'une profondeur terrible. Ils ne lisent pas l'Apocalypse. Mais moi, je crois que ça vaut la peine de lire l'Apocalypse. Et de voir combien Dieu règne. Dieu sait donner de l'espoir. Alléluia. C'est des choses qui doivent demeurer. Paul, lorsqu'il écrit en Corinthiens 13, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont des vertus sur lesquelles on ne devrait jamais négocier, c'est de les perdre. La foi, pour le moment présent. L'espérance, c'est pour l'avenir. Et l'amour, c'est pour mettre de l'huile partout, bien sûr. Dans les rouages, parce que des fois, ça peut grincer quand il manque d'amour. Vous avez remarqué, des fois, quand ça manque d'amour, consoler quelqu'un, c'est pas lui dire, ah, mais moi, je sais, tu sais, moi aussi, il m'est arrivé la même épreuve, hein, t'inquiète. Hein. C'est pas parce qu'on dit ça à quelqu'un qu'on sait le consoler. C'est pas parce qu'on a vécu la même épreuve que quelqu'un qu'on va pouvoir le consoler. Il y a des choses, on ne les a pas vécues. Vous savez, moi, ça m'est arrivé des fois, des sœurs, vous voyez, qui, quand on les visite, comme ça. Ah, vous savez, monsieur Gauger, quand j'ai accouché de ma fille, si vous saviez comment j'ai souffert, vous comprenez ? Vous savez, moi, je n'ai pas souvent accouché, ça fait que c'est... Alors, quand on dit ça, il y a des choses, on ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les comprendre. Mais il y a des choses, on peut les comprendre. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous ne devons pas dire aux gens, oui, moi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vécu ça. Ce n'est pas parce qu'on a vécu la même épreuve qu'on est capable de consoler la personne. Pour aider la personne, il faut recevoir, vraiment recevoir. Seigneur, apprends-moi à recevoir. En plus, quand vous lisez la parole de Dieu, moi je sais que j'y pense quand je prends le pain et le vin. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, prenez et mangez. Prenez et buvez. Ce sont des verbes qui nous montrent vraiment que quand on prend le pain et le vin, ce n'est pas juste prendre le vin ou le pain, c'est qu'il y a un acte de foi qui fait qu'on peut saisir les choses de Dieu. Prenez toutes les armes, prenez courage, ce sont des verbes actifs qui nous montrent qu'il y a un acte de foi à faire. Vous ne savez pas demain qui c'est que vous allez rencontrer, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le métro ou en arrivant au travail qui veut se suicider. Est-ce que Dieu demain peut mettre sur votre chemin quelqu'un qui pense au suicide ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Eh ben écoute, mon pauvre, moi je sais pas, moi aussi j'en vais pas, j'en ai marre. C'est comme ça que vous allez réagir ? Ça, c'est triste d'en arriver là, vous croyez pas ? On ne prend pas la tête avec tes problèmes, moi j'ai les miens. Je sais pas si c'est ce que Dieu attend vraiment. Je sais qu'on passe tous par des moments difficiles. Mais je crois, mes frères et sœurs, que nous avons un Dieu. S'il nous parle de consolation, d'ailleurs, Moi, j'ai toujours été étonné de voir que Jésus, lorsqu'il va partir, et qu'il, dans sa délicatesse qu'on connaît, dit « Mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre moi-même. » Comment il s'appelle ? Le Consolateur. Il aurait pu aussi lui dire le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, parce qu'après tout, est-ce que le Saint-Esprit est Tout-Puissant ? Oui. Vous voyez, il aurait pu donner un nom qui montre des attributs de Dieu, puisque c'est le cas. Le Consolateur. C'est la preuve que si le premier attribut que Jésus donne au Saint-Esprit, c'est le Consolateur, c'est parce que nous avons besoin de nous consoler les uns les autres. Nous en avons besoin déjà, déjà entre nous, dans le couple, dans la famille, nos enfants, consolés. Vous avez vu un enfant quand il se blesse, comment il saute vite sur les genoux de sa maman, il a besoin de tendresse. Mais est-ce qu'il n'y a que les enfants qui ont besoin d'être consolés? Est-ce que les adultes n'ont pas besoin d'être consolés? Vous avez vu comment termine le livre d'Ésaïe? Je ne sais pas si vous avez remarqué comment termine le livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe, chapitre 66, moi c'est toujours quelque chose qui m'a frappé, parce qu'on voit que combien nous avons besoin de consolation, et il faut être capable d'être consolé, parce qu'on peut est-ce qu'on peut refuser aussi d'être consolé? Oui, Rachel a refusé d'être consolée, on le voit dans la Bible, Rachel refuse toute consolation, il y a des gens qui refusent d'être consolés, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont refusé d'être consolées. Ésaïe 66, verset 12. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Regardez bien, comme un homme, pas un enfant, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Dieu a utilisé ce mot comme un homme que sa mère console. Car Dieu qui a créé bien sûr l'homme et la femme sait très bien comment une maman doit consoler son fils. Mais elle peut aussi consoler son fils quand c'est un homme. Et nous devrions accepter le fait que qui que nous soyons, nous avons besoin d'être consolés. Être capable de dire je sais ce qui m'arrive, je comprends ce qui m'arrive. Je dois recevoir quelque chose. Et j'ai parlé de consolation, mais ça peut être demain, je ne sais pas. Est-ce que quand vous partez au travail, je ne sais pas si ce que je vous dis c'est cohérent, mais quand vous partez au travail, quand vous sortez de la maison, est-ce que vous priez pour dire Seigneur, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas moi, d'une parole? Est-ce que vous ne croyez pas que ça plairait au Seigneur si nous nous appliquions, mais ça, ce n'est pas la peine de prier 3 jours, mais de prier quelques instants, Seigneur, tu vois, je vais sortir. Je te demande de me donner une parole, s'il te plaît. Une parole pour quelqu'un, pour faire du bien. Vous savez, moi je crois qu'on peut faire des progrès, vraiment. Et nos souffrances, ça devrait nous faire des progrès. Dans vos souffrances, où nous on a tellement vu de gens, j'aime pas le mot parce qu'il est pas, je trouve que c'est pas un joli mot, mais on a tellement vu de gens rétrogradés dans la souffrance. Oui ou non? Et je suis convaincu que chaque épreuve devrait nous faire retrouver cette force que Dieu donne. Parce que la consolation, ça passe par la force du Seigneur et par l'espoir que Dieu donne. Vous savez, quand Paul et Silas sont en prison, on les a maltraités, on les a blessés, ils sont dans une prison intérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Ils chantent et ils prient. Moi, je crois qu'ils avaient appris cette affaire. Oui ou non? Et c'est là qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris? On va bientôt arriver à la fin de l'année, qu'est-ce que j'ai appris en 2019 en fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Pratiquement, hein? Parce que Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettriez en pratique. Je ne parle pas intellectuellement, bien sûr. Je peux vous faire une étude de 3 mois sur la consolation, vous pouvez dire, oui, je sais très bien, Dieu est un consolateur, ça je l'ai compris. Mais c'est pas, est-ce que je saurais maintenant donner de l'espoir à quelqu'un? Donner du courage à quelqu'un. Moi, je sais que le monde est en train de chavirer, vraiment. Je vais terminer avec une petite histoire qui me revient à l'esprit, que j'avais lue il y a quelques années de ça. C'est une histoire qui m'avait touché. C'était un petit garçon qui passe devant un portail et il voit un monsieur qui met un panneau. Il met un panneau « Chiot à vendre ». Alors, petit garçon, il est là, il arrive vers le monsieur, il dit « Ah bon, vous vendez des chiens, tout ça ?»« Eh bien oui, je vends des chiens. Tu veux les voir ?»« Oui. » Alors, il siffle, et il y a quatre boules, vous savez, je crois que c'était des labradors, je ne m'appelle plus. Vous savez, ces boules de poils qui arrivent. Ah, mais le gars, il dit « Mais j'ai que 20, je ne sais plus, il n'avait pas grand-chose, pas beaucoup d'argent. » Et il dit « Mais tu pourras pas l'acheter. » Puis après, il voit une cinquième petite boule, beaucoup plus petite, qui arrive en boitant. Et c'était un chien qui avait une patte cassée. Il était né avec une patte difforme. Et le monsieur, il dit « Tu vois, celui-là, c'est pas pour toi. Tu pourras pas jouer avec lui. Tu pourras, même si tu avais l'argent, tu pourrais pas jouer avec. » Et le garçon, le petit garçon, il lève la jambe du pantalon, vous savez, et il lui montre un appareillage orthopédique, vous savez. Il avait une fausse jambe. Et le petit garçon, il lui a dit, vous savez, moi je pourrais jouer avec ce chien, parce que je pense qu'on se comprendra tous les deux. Et je crois que quand on a souffert, c'est bizarre comment on comprend la souffrance. Ou alors on s'aigrit, et on se blende, et moi je ne juge pas, hein. Moi je ne suis pas là pour juger. Il y a des gens qui disent, moi j'ai la peau d'un rhinocéros. Je ne sais pas si c'est intelligent. Moi je crois qu'on peut apprendre du Seigneur. Vous savez, moi je suis bouleversé quand je lis l'Évangile. Quand je vois Jésus, on le crucifie. Et qu'est-ce qu'il dit ? Père, pardonne-leur. Ça ne vous console pas, ça ? Mes frères et sœurs, nous devons apprendre. Les études bibliques, ça se bute là. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs ? Vous ne croyez pas que nous ferions vraiment des progrès devant Dieu si ce soir nous prenions la décision de dire, Seigneur, ben je vais recevoir de toi l'espoir et la force qui me permettront demain, ou après-demain, de consoler les autres. Des fois, on veut plaire à Dieu. Hein, vous le savez, on veut plaire à Dieu quand même. Oui ou non? Si on est là quand même, il y a de fortes chances qu'on cherche à plaire à Dieu. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, si Dieu vous voit demain en train de consoler quelqu'un, ça lui plaît. Il y a plusieurs textes qui parlent de que Dieu trouve son plaisir dans certaines choses. Alors que Dieu nous aide à être des consolateurs. Et Dieu nous donnera sa force et de l'espoir. Nous lui demandons sa grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es le Père éternel. Tu es le Prince de la paix. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Emmanuel, tu es ce Dieu qui pourvoit, et nous avons encore lu ce soir que tu es le Dieu de toute consolation. Nous le croyons, Seigneur, que tu as le pouvoir, par ta force et par l'espérance, de consoler tous les hommes et de donner un esprit de louange à la place d'un esprit abattu. Seigneur, nous voulons apprendre. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, lorsque nous passerons devant toi, apprendre que nous avons été sur la terre des enfants. Nous voudrions être, peut-être pas des maîtres, mais quand même faire des progrès, Seigneur. Vraiment. Faire des progrès pour donner à ceux que tu mettras sur notre chemin, que nous puissions vraiment donner ce que tu nous auras accordé, Seigneur. Que nous puissions procurer la paix, que nous puissions partager tout ce que tu nous auras donné au pied de ton trône. Permets, Seigneur, que chaque fois que nous nous retrouverons dans ta maison, nous puissions découvrir un peu mieux ta volonté. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, les yeux fixés sur toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.